Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. Aujourd'hui, on se penche sur les blessures sportives du haut du dos.
Plus précisément de la région thoracique dorsale.
Exactement. Et pour ce deep dive, on s'appuie sur un article récent paru sur blessuresdestasportives.com daté du 2 mars 2025.
Un sujet qui nous concerne tous, sportifs ou non.
Tout à fait. Et on va parler de solutions, aussi bien traditionnelles qu'innovantes. On va explorer la thérapie manuelle, les percussions, le laser.
Et même la naturopathie, un programme complet.
Ça vous intrigue. Alors attachez vos ceintures, on décolle. L'article met en avant deux types de blessures fréquentes chez les sportifs. Les tensions et spasmes musculaires thoraciques et le syndrome de la sortie thoracique en ses formes légères. Commençons par ces fameuses tensions musculaires. D'ailleurs, vous savez ce qui me fascine, c'est cette impression de nœud qu'on ressent parfois entre les omoplates.
Ah oui, cette sensation de blocage, de raideur.
Exactement. Comment expliquer ce phénomène?
Eh bien, figurez-vous que chaque muscle est enveloppé d'une membrane, le fascia.
Oui, imaginez un peu, c'est comme un fin tissu qui enveloppe et relie tous les muscles entre eux. Lorsqu'un muscle est trop sollicité, ce fascia se rétracte, créant des points de tension et cette sensation de nœud.
Ah, c'est comme si les muscles étaient collés entre eux?
Exactement. On perd en souplesse et en liberté de mouvement.
D'accord, je comprends mieux. Mais concrètement, qu'est-ce qui provoque ces tensions chez les sportifs?
Les causes sont multiples. Prenons l'exemple d'un rameur ou d'un grimpeur. Les mouvements répétitifs, les efforts intenses, finissent par créer une surcharge mécanique sur les muscles du dos. Même chose pour les sports de raquettes, avec des mouvements brusques et asymétriques.
Et la posture, j'imagine?
Ah oui, la posture est souvent négligée, elle joue un rôle crucial. Pensez aux cyclistes, penchés en avant pendant des heures.
On imagine bien l'impact sur les muscles du haut du dos.
Exactement. Et n'oublions pas les traumatismes, même mineurs. Un choc direct lors d'un match de rugby, par exemple, peut entraîner des contractures et des spasmes.
Oui, ça donne froid dans le dos, ça. Et au niveau des symptômes, à quoi faut-il être attentif?
Eh bien, cette fameuse douleur entre les omoplates est souvent le signe le plus évident. Elle peut être sourde, lancinante ou même brûlante et s'intensifie généralement à l'effort ou lors de certains mouvements, comme la rotation du buste.
Et j'imagine que la raideur musculaire est aussi un symptôme fréquent.
Oui, tout à fait.
On a du mal à se mouvoir librement, on se sent bloqué.
Les muscles sont contractés, ce qui limite l'amplitude des mouvements et peut même provoquer des spasmes involontaires. Parfois, on peut même ressentir une douleur à la palpation des zones contractées, signe d'une inflammation locale.
Et la fatigue musculaire?
Ah oui, la fatigue. Un signal d'alarme que le corps envoie. Il est important de l'écouter et de s'accorder du repos.
Absolument. Heureusement, il existe des solutions pour soulager ces tensions et retrouver une pleine mobilité. L'article mentionne plusieurs approches, notamment la thérapie manuelle. J'avoue que je suis curieuse de savoir comment un ostéopathe ou un chiropraticien peut agir sur ces tensions musculaires.
C'est une approche fondamentale qui vise à rétablir l'équilibre en mécanique du corps. Par des manipulations douces et précises, le thérapeute va détendre les muscles contractés, libérer les articulations bloquées et restaurer l'amplitude naturelle des mouvements.
Un peu comme une remise en place du pesant.
Exactement. On remet chaque pièce à sa place pour que tout fonctionne harmonieusement.
Et en parlant de libération, l'article évoque aussi les techniques de libération myofasciale. C'est lié au fascia dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Souvenez-vous, ces fascias qui enveloppent les muscles peuvent se rétracter et créer des adhérences. Les techniques de libération myofasciale, par des pressions et des étirements spécifiques, permettent de décoller ces tissus et de restaurer leur fluidité.
On fait un peu le ménage dans les tissus, en quelque sorte.
C'est ça. On améliore ainsi la circulation sanguine et lymphatique, ce qui favorise l'élimination des toxines et la régénération des tissus.
C'est fascinant. On a l'impression que tout est lié dans le corps. Mais dites-moi, la technologie a-t-elle sa place dans le traitement de ces tensions? L'article parle de thérapie par percussion.
Ah oui, le fameux percuteur. Un outil formidable pour cibler les tensions musculaires en profondeur.
J'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Un marteau pour soigner les muscles.
Pas vraiment un marteau, mais plutôt un appareil qui délivre des impulsions rapides et précises sur les zones contractées.
Un mini-massage en profondeur, en quelque sorte.
On peut le dire comme ça, et c'est très efficace. Les études montrent que la thérapie par percussion permet de relâcher les tensions, de réduire la douleur et d'améliorer la flexibilité musculaire.
C'est une approche complémentaire à la thérapie manuelle.
Oui, tout à fait. Elle peut accélérer le processus de guérison. Et on peut même personnaliser les réglages du percuteur en fonction des besoins de chaque patient.
C'est vraiment une approche sur mesure, j'adore ça. Mais attendez, l'article ne s'arrête pas là. On parle aussi de laser, et pas n'importe lequel là. Un laser de haute intensité.
J'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Un laser pour soigner les muscles.
La thérapie au laser est une approche innovante qui gagne en popularité dans le traitement des blessures sportives. En fait, ce laser émet des photons qui pénètrent les tissus et interagissent avec les cellules.
C'est un peu technique tout ça.
Oui, c'est vrai. Mais imaginez que ces photons stimulent les mitochondries, les petites usines énergétiques de nos cellules.
Les mitochondries, on dirait un film de science-fiction.
C'est pourtant bien réel. Cette stimulation booste la production d'ATP, la principale source d'énergie du corps. Résultat. Les cellules se régénèrent plus rapidement, l'inflammation diminue et la douleur s'estompe.
Donc, le laser agit comme un accélérateur de guérison. C'est incroyable. Mais est-ce qu'il existe différents types de lasers ?
Oui, tout à fait. On distingue les lasers de faible intensité, souvent utilisés pour leurs effets anti-inflammatoires et analgésiques, et les lasers de haute intensité, comme celui mentionné dans l'article, qui ont un pouvoir de pénétration plus important et stimulant davantage la régénération tissulaire.
Donc, en fonction de la gravité de la blessure, on va choisir le type de laser le plus adapté.
Exactement.
C'est vraiment une approche personnalisée. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut combiner ces différentes thérapies ?
Absolument. L'approche optimale consiste souvent à associer plusieurs modalités thérapeutiques pour une prise en charge globale. Par exemple, on peut commencer par des séances de thérapie manuelle pour relâcher les tensions, puis utiliser le percuteur pour cibler les points trigger et la thérapie au laser pour accélérer la guérison.
Un véritable cocktail thérapeutique. Hein.
Exactement. On adapte le traitement aux besoins de chaque patient.
Mais attendez, l'article mentionne aussi le rôle du soutien naturopathique. Je suis curieux d'en savoir plus.
La naturopathie est une approche holistique qui vise à stimuler les capacités d'auto-guérison du corps. Elle peut être un complément précieux pour les sportifs souffrant de tensions musculaires.
Concrètement, qu'est-ce que ça implique ?
Tout d'abord, l'alimentation joue un rôle clé. On privilégie une alimentation anti-inflammatoire, riche en oméga-3, en antioxydants et en phytonutriments. On mise sur les fruits et légumes colorés, les poissons gras, les oléagineux, les épices comme le curcuma.
Des petits plats délicieux et bienfaisants.
Exactement. Et on peut aussi s'appuyer sur des compléments alimentaires ciblés comme la curcumine, le magnésium ou encore des complexes de vitamine B qui aident à réduire l'inflammation et à soutenir la fonction musculaire.
Et l'hydratation, bien sûr.
Absolument. Boire suffisamment d'eau permet d'éliminer les toxines et de maintenir l'élasticité des tissus. On peut aussi intégrer des tisanes à base de plantes aux vertus anti-inflammatoires et relaxantes, comme la camomille ou la passiflore.
Et n'oublions pas les techniques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, pour gérer le stress qui peut aggraver les tensions musculaires.
Tout à fait. Le bien-être mental est indissociable du bien-être physique.
On prend soin de son corps et de son esprit pour une récupération optimale. Waouh ! Quelle première partie passionnante ! On a exploré en profondeur les causes, les symptômes et les solutions pour les tensions et spasmes musculaires thoraciques.
Et ce n'est que le début.
Exactement. Sur la prochaine partie, on s'attaque au syndrome de la sortie thoracique. Restez avec nous.
À tout de suite. Prêt à explorer le syndrome de la sortie thoracique. On se concentre sur les formes légères, rassurez-vous.
Oui, les formes légères. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'avoue que ce nom me laisse un peu perplexe. Syndrome de la sortie thoracique, c'est quoi exactement ?
Alors imaginez, entre votre cou et votre poitrine, il y a un passage, un peu comme un carrefour.
Un carrefour ? Oui, un carrefour anatomique où se croisent des nerfs, des artères et des veines. C'est ça, la sortie thoracique. Et parfois, ces structures, eh bien, elles sont comprimées.
D'accord, donc une compression qui peut affecter les nerfs ou les vaisseaux sanguins. Et qu'est-ce qui provoque cette compression ?
Plusieurs causes possibles. Parfois, c'est une question de posture.
La posture encore, hein ?
Eh oui. Des épaules enroulées, une tête penchée en avant, tout ça réduit l'espace dans la sortie thoracique.
Et hop, compression.
Exactement. Et puis, les tensions musculaires, ça peut aussi jouer un rôle.
Ah oui, on en parlait tout à l'heure.
Certains muscles, quand ils sont trop contractés, ils compriment les nerfs et les vaisseaux. Les scalènes, par exemple, c'est muscles du cou.
Donc, un sportif avec une mauvaise posture et des tensions musculaires, il est plus à risque.
Disons que ça augmente les probabilités. Et il y a aussi des facteurs anatomiques. Certaines personnes ont une côte cervicale supplémentaire, une petite côte en plus au niveau du cou.
Une côte en plus ?
Oui. Et ça peut comprimer les structures de la sortie thoracique.
Bon, on entre dans des détails anatomiques là. Mais concrètement, comment savoir si on a ce syndrome ? Quels sont les symptômes ?
Ça dépend des structures comprimées, nerfs ou vaisseaux. Dans les formes légères, on a souvent une douleur diffuse au niveau du cou, de l'épaule, du bras.
Une douleur qui irradie peut-être ?
Oui, ça peut irradier jusqu'à la main. Et la douleur, elle est accentuée par certains mouvements, certaines postures.
Lever les bras, par exemple.
Exactement. Porter des charges lourdes ou même dormir sur le côté affecté, ça peut aggraver les symptômes. On peut aussi avoir des engourdissements, des picotements, une faiblesse dans le bras et la main.
Et si ce sont les vaisseaux sanguins qui sont touchés ?
Là, on peut voir un gonflement du bras, une sensation de lourdeur, une modification de la couleur de la peau et même une diminution du pouls.
Pas très rassurant tout ça. Comment pose le diagnostic ?
Le médecin, il va faire un examen clinique complet. Il va regarder vos antécédents, vos symptômes. Il va faire des tests pour évaluer la mobilité de votre cou et de vos épaules.
Et des examens complémentaires, j'imaginais.
Oui, il peut prescrire une radiographie, une échographie Doppler, une électromyographie.
Pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
Exactement. Éliminer d'autres pathologies aussi.
Donc, une investigation complète. Et une fois qu'on a le diagnostic, quelles sont les options ?
On privilégie une approche globale, personnalisée. Dans les formes légères, la thérapie manuelle, c'est souvent la première ligne de traitement. L'ostéopathie, par exemple.
L'ostéopathie, on en parlait tout à l'heure.
L'ostéopathe, il va restaurer la mobilité des articulations, relâcher les tensions musculaires, libérer l'espace autour des nerfs et des vaisseaux.
Un travail de précision.
Oui, il va regarder l'ensemble du corps, la colonne vertébrale, les côtes, les muscles du cou et des épaules. Identifier et corriger les dysfonctionnements.
Chaque patient est unique.
Exactement. Le traitement est adapté en fonction des besoins spécifiques.
C'est rassurant. Mais l'ostéopathie, ce n'est pas la seule solution, n'est-ce pas ? On parlait du soutien naturopathique tout à l'heure.
La naturopathie, c'est un excellent complément. Elle agit sur différents leviers pour favoriser la guérison et prévenir les récidives.
Concrètement, on fait quoi ?
L'alimentation, encore une fois, c'est crucial. On privilégie les aliments riches en antioxydants d'oméga 3.
Anti-inflammatoires ?
Oui. Fruits, légumes colorés, poissons gras, huiles végétales.
On nourrit son corps pour qu'il se répare.
Exactement. Et on peut aussi utiliser des compléments alimentaires. La vitamine C, par exemple, pour la formation du collagène.
Le collagène, c'est important pour les vaisseaux sanguins ?
Oui, tout à fait. Et le magnésium, pour la relaxation musculaire.
Intéressant. Et la phytothérapie ? J'ai entendu dire que certaines plantes pouvaient être bénéfiques.
Oui, certaines plantes ont des propriétés anti-inflammatoires et circulatoires. Le ginkgo biloba, par exemple, il améliore la circulation sanguine.
Le ginkgo biloba, oui.
Et l'arnica, elle soulage les douleurs musculaires et les inflammations. On peut les prendre en tisane, en gélule, en huile essentielle.
Incroyable ! Toutes ces solutions naturelles. Et bien sûr, la technique de relaxation pour gérer le stress.
Le stress, ça aggrave les tensions musculaires, ça peut contribuer à la compression.
La méditation, le yoga.
Tout ça, ça détend le système nerveux, ça libère les tensions.
Encore une fois, on voit l'importance d'une approche holistique. Et la prévention, j'imaginais.
Essentiel. Avoir une bonne posture au quotidien, faire du sport régulièrement, éviter les mouvements répétitifs, les charges lourdes.
Des gestes simples pour protéger son dos.
Exactement. Prévenir l'apparition du syndrome.
Un message essentiel à retenir. Merci pour toutes ces explications. C'est passionnant de plonger dans ces mécanismes. On a beaucoup parlé de traitements, mais j'ai hâte de découvrir les innovations technologiques. C'est pour la suite.
Oui, on va parler de technologie à rester avec nous.
On a parlé de tension musculaire, du syndrome de la sortie thoracique. On a même parlé d'ostéopathie, de naturopathie, des plantes, des solutions naturelles.
Une approche globale.
Exactement. Mais ce qui me fascine, moi, c'est la technologie.
Ah oui, la technologie. On a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère pour la médecine du sport.
C'est vrai. La technologie, elle ouvre un champ des possibles incroyables pour la prévention, le diagnostic, le traitement des blessures. Par exemple, les capteurs biométriques.
Ah oui, ces capteurs qui mesurent tout. La posture, la tension musculaire. J'ai lu des articles, ça a l'air incroyable.
Incroyable, mais réel. Imaginez, un sportif, il porte un vêtement intelligent avec des capteurs.
Un vêtement intelligent.
Oui, qui enregistre ses mouvements en temps réel. Et ces données, on les analyse pour identifier les déséquilibres, les mauvaises postures.
C'est comme avoir un coach virtuel en permanence.
Exactement. Le capteur, il peut même alerter le sportif en cas de mouvement à risque.
Pour corriger sa posture, éviter les blessures.
Oui. C'est un outil précieux pour la prévention, mais aussi pour la rééducation.
Je vois bien l'intérêt pour les sportifs de haut niveau. Mais pour le grand public, c'est accessible.
De plus en plus. On trouve déjà des bracelets connectés qui analysent le sommeil, le stress, l'activité physique.
Ah oui, c'est vrai.
Et les applications mobiles, elles se multiplient. Des programmes de renforcement musculaire, d'étirement adaptés à chaque profil.
La technologie au service du bien-être, c'est génial. Et pour les traitements. L'article, il parlait d'avancer dans la thérapie par percussion et le laser.
Absolument. Les percuteurs, maintenant, ils sont de plus en plus précis, performants. On peut cibler des zones très spécifiques.
Plus besoin de marteler tout le muscle.
Non.
On ajuste l'intensité, la fréquence. On peut même programmer le percuteur pour qu'il suive un protocole de traitement.
Waouh, c'est vraiment un outil de précision. Et le laser ?
La recherche, elle progresse vite. On développe des lasers plus puissants qui pénètrent les tissus en profondeur. On affine les paramètres pour optimiser la stimulation cellulaire.
La régénération des tissus.
Oui. On explore même de nouvelles longueurs d'onde pour cibler des structures spécifiques, comme les nerfs.
Incroyable. Une vraie révolution. Mais est-ce qu'il y a des risques avec ces technologies ?
Comme toute technologie, il faut les utiliser avec prudence. Un percuteur mal utilisé, ça peut aggraver une blessure. Et le laser, il peut provoquer des brûlures.
Donc, toujours suivre les recommandations des professionnels de santé.
Bien sûr. La technologie, c'est un outil. Elle ne remplace pas le jugement humain.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle en médecine. Est-ce que l'IA, elle a sa place dans le traitement des blessures du dosage?
L'IA, on l'utilise déjà pour analyser les images médicales, les radiographies, les IRM.
Pour aider au diagnostic?
Oui, et on développe des algorithmes qui identifient les anomalies, qui prédisent les risques de complications.
Fascinant. Mais l'IA, elle remplacera jamais le contact humain, j'espère.
Je ne crois pas. L'empathie, l'écoute... Le lien de confiance entre le patient et le thérapeute. C'est essentiel pour la guérison.
La technologie au service de l'humain.
Exactement.
Merci pour toutes ces informations. C'était passionnant de plonger dans ces innovations, d'imaginer le futur de la médecine du sport.
Merci à vous. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur les blessures du haut du dos. N'oubliez pas, la prévention, c'est primordial. Une bonne hygiène de vie, une activité physique adaptée et on écoute son corps.
Des conseils précieux. Et n'oubliez pas, cet épisode était basé sur un article paru sur blessuretesportives.com. Si vous voulez en savoir plus, allez consulter l'article original. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le dos droit.